Nous pouvons donc continuer sur la partie séminaire de cette réflexion sur les bibliothèques invisibles. Et j'ai l'immense honneur et plaisir d'accueillir à cette table, je crois qu'on peut dire l'un des plus grands écrivains français vivants, Pascal Quignard. Qu'il est à peine besoin de présenter, mais bon, il faut quand même le faire un tout petit peu, mais qui a obtenu le prix Goncourt en 2002 pour Les Ombres errantes. Et je voudrais du reste dire que Pascal Quignard n'est pas le seul prix Goncourt présent dans la salle. Il y en a aussi un autre ou une autre. Pascal Rose, en vérité, mais bon, je soutiens la parenthèse. Donc nous sommes ici au rendez-vous des prix Goncourt. Il a obtenu aussi le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2000 pour Terrasse à Rome. Il y a son tout dernier livre, L'amour, la mer, paru chez Gallimard, là, ces semaines-ci. Mais la bibliographie de Pascal Quignard est immense, innombrable, et vous la connaissez certainement. Au-delà de ces prix, il y en a d'autres, vous êtes, et je crois que c'est assez rarissime, vous êtes l'inventeur de beaucoup de choses, mais en particulier l'inventeur d'un style. Il y a un style Quignard, comme il y eut un style Duras. Et il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui peuvent se targuer d'avoir su inventer un style qu'on peut pasticher parfois, hein, certains le font, ou on peut être influencé par ce style et certains l'imitent. Moi-même, j'ai été influencé, et d'autres...
Même soi-même, on peut être influencé. Voilà,
c'est le principe même du style. Et il y a même des adjectifs, hein, il y a le quignardien, quignardesque, hein, qui sont forgés pour dire ce style. On peut le dire, je crois, de très peu d'écrivains qui sont les inventeurs d'un style, pas seulement d'un style en vérité, d'une écriture, d'une manière de penser, d'une forme. Et ça, je crois que là aussi, très peu d'écrivains peuvent le dire. Parce que vous avez une œuvre, j'ai parlé ici de romans, j'ai cité des romans qui ont eu des prix, mais c'est une œuvre, un roman. Les Ombres errantes n'étaient pas un roman, justement, mais c'est une œuvre essentielle pour beaucoup, qui compte aussi beaucoup, énormément pour ses essais, par les petits traités et puis par ce cycle du dernier royaume que vous avez entamé avec Les Ombres errantes. Une œuvre d'essai absolument monumentale et qui fait de Pascal Quignard à la fois l'un des grands essayistes et l'un des grands penseurs, en vérité, d'aujourd'hui. Avec une attention, et c'est ce qui nous amène à ces bibliothèques invisibles, avec ces œuvres perdues, excusez-moi, je pense au cours de l'an dernier, à ces œuvres perdues, une attention au passé, une attention au passé de la littérature, une attention aux œuvres perdues. Vous aviez commencé votre carrière littéraire en traduisant, à la demande de Paul Celan, je crois, l'Alexandra de Lycophron. Et c'est la première chose, c'est une des premières choses à laquelle j'ai fait allusion quand j'ai fait cours ici. C'est à votre Alexandra que vous aviez traduite. Un texte perdu, en tout cas énigmatique s'il en est, et repris, que vous avez donc remis à l'honneur pour nous. Vous avez une attention aux œuvres perdues, aux civilisations perdue, antique, à leur conception du monde perdu. Je pense à ce livre aussi qui a beaucoup fait parler de lui, un livre à la fois de pensée et d'image, hein, Le sexe et l'effroi, qui avait eu un très très beau succès, et basé essentiellement sur des peintures de Pompéi. Il y a une mélancolie, hein, assez fondamentale, me semble-t-il, dans votre travail, mais je me trompe peut-être. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a tout cela a eu une influence colossale sur beaucoup d'écrivains, beaucoup d'intellectuels, dont je suis. Voilà, donc c'est pourquoi je suis très, très heureux. Et j'avais cité au début de ce cours quelques mots que vous aviez dans les petits traités sur précisément la perte des œuvres. Et donc voilà, je pensais que vous seriez... vous êtes le bienvenu ici pour nous parler, je crois, du perdu.
Oui, tout à fait. Je n'ai pas hésité une seconde quand vous m'avez proposé de défendre l'oublié et le perdu. Je vous remercie tous d'être là, c'est très impressionnant. D'autant que c'est en pleine lumière, c'est pas comme au théâtre, vous n'êtes pas dans l'obscurité. Ni moi, ça aurait pu se faire. Mais enfin bon, ça n'est pas... Je vais commencer par un entretien que j'ai eu avec Jordi Savall il y a bien des années, Monse Fierat vivait encore. Par parenthèse, d'ailleurs, on va fêter, on va faire un concert, Jordi Savall et moi, salle Gaveau, le 20 mai, pour fêter ses 80 ans. Je vous le dis parce que ça correspond très bien et ça me permet de le faire parler aussi. C'est moi qui commence cet entretien. Je vais commencer par quelque chose d'un peu long pour expliquer les liens qui, en plus de l'amitié, me portent vers Jordi. Ce qui me touche tellement dans la vie de Jordi Savall, c'est qu'il a le sens d'une continuité dans les âges, d'une confraternité dans le temps des solitaires et des oubliés. Pour quelles raisons les artistes de notre temps ont-ils consacré leur vie à défendre l'oublié ? Pendant des siècles et des siècles, on défendait plutôt les nobles, les puissants, les dieux, les puissants qui nous payaient, et l'art ne se consacrait pas à défendre ce qui était omis, perdu, oublié. Puis il y a eu la Révolution française et ceux qui étaient oubliés ont pris le pouvoir. Et les nations qui en sont nées ont elles-mêmes considéré leur histoire pour essayer de leur trouver une autre orientation que les successions monarchiques ou divines. Plus tard est né le folklore, qui a tourné à l'ethnologie, où les nations elles-mêmes ont tenté d'explorer les peuples qu'elles avaient pourtant massacrés, évincés, contaminés, détruits. Après ce thème historique, révolutionnaire, ethnologique, il y a eu l'archéologie de la langue. Michelet, Augustin Thierry, Mallarmé, Heidegger, Benveniste ont cherché des mots plus anciens, une étymologie remontant jusqu'à un hypothétique indo-européen. Bref, ils ont fouillé une forme d'archaïque qui était oubliée et ils l'ont fait revenir. Plus proche encore de moi, la psychanalyse a essayé de faire revenir le refoulé, ce qui était perdu, n'avait pas d'existence consciente. Enfin, j'arrive à ce qui est pour moi la plus grande fracture, la Seconde Guerre mondiale. Il y a le fait que dans nos propres familles, les disparus nous hélaient, et que par suite, pour ceux qui sont nés après la guerre, pour ceux qui ont poussé leur cri de naissance dans les ruines de la guerre, il y avait l'obligation d'animer une flamme pour des êtres qui n'avaient même pas été enterrés. C'est dans ce mouvement-là que l'œuvre de Jordi Savall, est absolument déterminée, incroyablement fidèle. Que l'on regarde ta discographie, Jordi, que ce soit au Mexique, que ce soit pour le monde juif, pour le monde baroque, cela a toujours été le même mouvement. Dès ta jeunesse, tu as été pris par ce désir de faire revenir de la musique perdue. Tu as été pris par cette passion de lire des manuscrits de musique. Sans toi, Sainte-Colombe ne revenait pas. Jordi Savall. Je ne crois pas. D'autres musiciens se seraient occupés de Sainte-Colombe. La seule différence, c'est que j'ai eu la chance d'être convaincu qu'il fallait faire des disques entiers consacrés à Sainte-Colombe, alors que les autres musiciens mettaient une pièce parmi d'autres. Avant que nous ne commencions à récupérer ces chefs-d'œuvre pour la viole, les gens ne prenaient pas le risque. En ce qui concerne la viole de gambe, j'éprouvais surtout un sentiment d'injustice. Je me souviens qu'au printemps 1965, je séjournais quelques jours à Paris avec les jeunesses musicales d'orchestre. Je me suis blessé, c'était un violoncelliste à l'époque, je me suis blessé au poignet et j'ai dû m'arrêter. J'ai ainsi passé une semaine de liberté à la Bibliothèque nationale. Ma table, chaque jour, se remplissait. Les 5 livres de Marin Marais, les pièces de Couperin, de Sainte-Colombe, de Jean-Baptiste Antoine Forqueray, les anonymes, j'en devenais presque fou. Je tournais les pages et ne cessais de m'exclamer « Les voix humaines, folie d'Espagne, le tombeau de Sainte-Colombe ». C'était une merveille après l'autre. Là, de nouveau, c'est moi qui parle. Dis-moi, est-ce que jouer quelque chose que personne n'a joué avant toi t'attire aussi ? Ou bien est-ce plutôt le fait d'être le sorcier qui fait sonner ce qui ne sonnait plus ? Ou bien encore, est-ce par pur devoir à l'égard de la musique ? Réponse de Jordi. Je pense que pour un artiste créateur, faire quelque chose qui n'a pas déjà un modèle, c'est une expérience merveilleuse. On doit créer quelque chose dont on ne sait pas comment ça a pu être. C'est vraiment faire naître quelque chose de matériel. Cela t'oblige à des recherches, à tout un travail en profondeur. C'était une idée excitante et c'est grâce à cela que nous avons pu effectuer le passage et quitter une vie professionnelle stable avec le violoncelle après 9 années d'études. J'aurais pu gagner ma vie tout à fait honnêtement. J'ai décidé de recommencer à zéro avec un autre instrument. Déjà, lorsque j'avais décidé de commencer le violoncelle, on m'avait dit que j'étais fou et que ce n'était pas un métier. Lorsque j'ai jeté par-dessus bord 9 années d'études de violoncelle, on m'a dit « c'est sans remède, là, vous êtes définitivement perdu ». Je vais vous lire maintenant l'annonce qu'on peut trouver sur le site internet d'Aline Piboul, merveilleuse virtuose avec qui je travaille, pour notre prochain spectacle intitulé « Ruine ». Il y a des écrivains de la paix, il y a des écrivains de la guerre, il y a des écrivains des ruines. Je suis un écrivain des ruines. J'ai passé mon enfance dans les décombres d'un port entièrement détruit par l'aviation alliée. Il a fallu attendre 7 ans avant que la ville commence à se dresser de nouveau face à la mer. Celui qui commence à vivre dans les ruines est voué à un deuil même s'il n'a pas eu l'expérience de la destruction. Il la ressent sans qu'il la comprenne. Il en reçoit l'impression douloureuse sans qu'il en perçoive la cause déterminée. Il n'a jamais vu de mur d'aplomb. Il n'a jamais vu de quai qu'exploser. Il n'a jamais connu de maison entière. Après, je cite tous les morceaux que nous allons jouer avec Aline Piboul. Là, d'ailleurs, je recommence à partir en tournée avec elle à Nevers dès samedi prochain. Avec Aline Piboul, immense virtuose, je fais exactement la même chose que ce que je faisais avec Jordi il y a 30 ans, pour la musique ancienne, mais maintenant pour la musique contemporaine. Par exemple, dans ce spectacle dont je vous parle, en Boutès, la mère de Debussy, qu'Aline est la seule virtuose au monde à pouvoir jouer intégralement au piano, cela nous permet de faire revenir la mère de Decaux, Abel Decaux, extraordinaire génie qui précède Debussy. Ou bien, dans Ruine, on va faire ressurgir la performance de Budapest de 1992, enfin ça dure en fait 7 ans à Budapest, où Thomas Hadès, à partir d'un thème de Dowland, improvisait, puis finalement a écrit une œuvre absolument merveilleuse, qui mérite en effet d'être beaucoup plus connue qu'elle ne l'est. Mais ne serait-ce que le choix de Boutès que j'ai fait par rapport à Orphée ou à Ulysse, Boutès, c'est le héros oublié. C'est celui qui accède au chant des sirènes, qui quitte son banc, saute dans la mer, plonge dans la musique et y meurt. Je fais en littérature exactement ce que je fais en musique. Quand je commence à publier en 1968, j'édite pour la première fois les œuvres complètes, poèmes et proses de Maurice Sèvres au Mercure de France. Aussitôt après, Paul Celan me commande l'Alexandra de Lycophron parce qu'il a lu Rudulm, la traduction de Calixte Rachet préfacée par Mallarmé. C'est un tout petit livre, en fait c'est pas une traduction, c'est très bien d'ailleurs. C'est 30 pages, un petit livre vert, vous l'avez peut-être vu, ce petit livre, et Paul Celan voulait en savoir plus sur... Et comme moi, je suis très attaché à Mallarmé, de toute façon, ça n'a pas posé de problème. Puis, j'ai consacré un livre à Porcius Latron, puis au romancier romain Albucius. J'ai édité les œuvres de Sénèque, Le Perche et Aubier. Je préface et réédite Jacques Esprit. Je continue encore avec les œuvres censurées de Marie Morel, de Jean Rustin. Voilà la partition avec laquelle je travaille. C'est la partition de musique sur laquelle je parle avec Aline Piboul. Je vais juste vous montrer une petite chose parce que ça compte énormément pour moi. J'ai mis en là Le plongeur de Paestum, que tout le monde connaît, parce que j'ai associé dans mon imaginaire la figure de Boutès à celle du plongeur. Mais derrière, et dans tout ce que je fais, c'est la même chose, il y a une crypte. Et là, j'ai écrit ce texte où je parle d'une barque perdue. Et malheureusement, cette épidémie qui a eu lieu a fait que mon petit frère est mort en mars 2020. Et bien sûr, à la suite de ce deuil, j'ai cherché dans des photos et j'ai retrouvé une photo où j'étais avec lui, avec cette petite barque à la main. Donc il y a toujours quelque chose de crypté, toujours en plus de perdu dans les œuvres. C'est pour ça que je vous montre cette petite image. En fait, si vous voulez, moi, il n'y a qu'une théorie littéraire, pardonnez-moi, à part la vôtre. Il n'y a qu'une théorie littéraire qui a compté pour moi et qui compte, c'est Léo Strauss, c'est l'art d'écrire comme dans la persécution, c'est la cryptographie littéraire. Là, je vais vous lire un texte qui ne paraîtra jamais parce qu'il est trop argumenté, mais qui concerne ce sujet et que j'ai retiré d'un des volumes du Dernier Royaume. Sur l'objet cache-mort. J'ai retrouvé cette petite barque d'enfant que j'évoque dans Boutès le jeudi 11 mars 2021, alors que je me trouvais rue Manin. Derrière moi, mon petit frère mort, Noël, et ses petits doigts de pied délicieux en éventail, photo prise au mois d'août 1951 sur la plage de la Birochère. Nous portions des grandes culottes de bain en laine. Il a un an et demi, j'en ai trois. Jetant au bout de ma main une barque en bois au bord de l'eau, j'entends l'eau, j'entends tout à coup la pulsion qui bat ces deux temps induits par le troisième temps plus ancien, la battue, le battement du cœur disparu post-partum de la mer, de deux temps puis quatre, à la suite de l'irruption du temps pulmonaire qui s'introduit dans le monde du cœur, du temps cardiaque du cœur, tels sont les temps de la musique. Il faut que j'ajoute que mon petit frère était violoncelliste. Hésiode, au vers 648 dans les Travaux et les Jours, écrit ou dit « La mer retentissante indique la mesure. Thalassa polyfluctuante donne le temps. » J'en arrive à la question « Y a-t-il un objet cache-mort ? » L'objet introuvable renvoie à la perte définitive du premier monde. Il désigne le placenta, peut-être. Il fait signe au corps-mère de la mer à l'intérieur de la mer. Deux fois arrive la mort. Vous voyez pourquoi j'ai écarté ce texte de mes livres, parce qu'il est trop argumenté. Au moment de la naissance, le corps est expulsé avec une telle violence dans le jour. Le corps expulsé, dans la pulsion de l'expulsion, constitue l'objet perdu. Le corps naissant perd une poche, une grotte, un abri, il perd l'autre sexe, il perd la fusion avec le corps d'une mère. Ces disparitions, aussi confuses qu'irréversibles, forment l'unique destin jusqu'au dernier jour. Confuses parce qu'ayant été fusionnant, de la même façon, chez les saumons, la frayère est le but. Chez les tortues, la plage. Chez les requins, le corail. Chez les oiseaux, le nid migratoire. L'origine est le but. Au moment de l'expire, même au combat, même sur la frontière, on murmure ce nom de mer même dans le naufrage. Même seul, on n'est pas seul, même seul, on aile. Même seul, dans le rêve, on voit cette chose insaisissable, cette relique qui se fait fétiche, qu'on recherche partout, songe après songe, année après année, à la limite des vagues. Les rêves ne cessent pas de se mettre en quête d'un objet qui est égaré. On le voit, en vérité, dans le songe, au lieu où il n'est pas. Cette place qui manque est déjà celle de la lettre au fond de l'âme, petite barque qu'on imagine miraculeusement ramenée par la mer, choyée par la marée. l'objet qu'on réclame partout, battant la campagne, le chardon, la criste marine, la grève, les buissons, fouillant les roches, sondant les baïnes, l'objet partout perdu dans l'angoisse soudaine, les clés, les lunettes, l'objet introuvable, ma montre, le portable, la bague. Le souvenir n'est souvent qu'un écran à la place du vide. L'émotion est tellement plus belle que le souvenir. Il ne faut aimer que l'écran, peut-être. Il est comme les œuvres sont elles-mêmes aussi un peu. Pourtant, les œuvres sont plus proches de la quête du songe. Toute intrigue est une quête. Jason arme Argot vers la toison d'or. Ulysse ne cherche que le retour lui-même qu'il appelle Nostos. Si l'apparaître cache le disparaître, l'apparence est mieux que la disparence. L'écran cache le vide. Derrière l'écran se trouve la mort. Le livre peut être un corps qui guette sa vie. L'appel sans adresse est celui de la mer avant que s'invente au fond d'elle le vivant. La barque perdue dans le songe. Je sais que j'ai été étonné de retrouver l'image. D'ailleurs, cette barque perdue dans le songe, elle était plutôt elliptique. Elle n'avait pas la forme de la réalité. Boutès meurt dans la mer. Nithard meurt dans la mer. Un jour, on m'appelle au téléphone. On vient de retrouver le squelette de Nithard. Aussitôt, je dis oui. Il s'agit d'enterrer le squelette de Nithard. Je vais à Saint-Riquier. Je suis seul avec une bûche. Je prends une bûche parce que chez les Carolingiens, c'est si j'avais trouvé un faucon, j'aurais pris un faucon. J'aime les oiseaux, j'aime les animaux, j'aime. Bon, bref, une buse, et Luc Péton, un danseur, lui, tout nu dans un linge mouillé, doit jouer le rôle, de, comment dire, du prince, du petit-fils de Charlemagne mourant sur la grève. Pourquoi ? Non, et Nithard, vous voyez très bien qui c'est celui qui a écrit le premier, le français, on sait la date et l'heure, le vendredi 14 février 842 sur le bord de Lille, près de Strasbourg, lors de la prestation des serments dans les trois langues. Magnifique manuscrit qui est conservé à la BNF. Jamais je n'ai vu des Carolines plus belles que celles de ce manuscrit. Mais pourquoi ? Et aussi peu hésiter. Bien sûr, ça m'émeut, bien sûr, un oublié, aussitôt on fonce, on va faire la performance. Mais c'est tout simplement parce que c'est la même chose que là, parce que dans le cimetière de l'abbaye de Saint-Riquier se trouve la tombe de mon grand-père. Et j'étais donc, non seulement avant d'être dans l'abbaye, je suis allé saluer la tombe de mon grand-père. Le texte que je vais vous lire maintenant, quelle heure il est ? Oui, c'est bien. Oh, j'ai le temps, rien. Non, mais le texte que je vais vous lire maintenant, lui, il paraîtra dans le tome 12 de Dernier Royaume, qui s'intitulera « Les heures ». Il se trouvera à peu près au milieu du livre, qui n'est pas encore complètement constitué. Et je l'ai intitulé « Jean Bruneau ». En vérité, vous le connaissez tous, parce que c'est l'érudit qui a édité la correspondance de Flaubert en Pléiade. Jean Bruneau. Mon oncle si maigre, quand il fut de retour du camp de Dachau, je ne sais pas comment il faut dire, le temps qu'il lui fallut pour être de retour dans le temps, les années-lumière qu'il lui fallut pour revenir, mon oncle si maigre qui m'a sauvé de mon enfance, mon oncle si maigre, si beau, beau comme un ange d'annonciation, qui se reposait dans le fauteuil crapaud à l'angle du piano droit et blond de ma grand-mère, qui têtait avec tant de plaisir le bout de sa cigarette retrouvée. les yeux si bleus, les lunettes de fer si rondes, la tête enveloppée d'une âme de la fumée de ses volutes, des étranges vrilles de lumière, de son effilochement sur le bois à cajou de l'Érard et sur les partitions ouvertes. Mon jeune oncle qui dévorait tout le jour, qui ne cessait de sortir des poches de son veston des rouleaux de zans avec une perle au milieu. Des chewing-gums roses enveloppés dans des photos de footballeurs. Des boules de gomme. Des bois de réglisse marron pleins de poussière. Des gauloises bleues. Des petites boîtes d'allumettes italiennes cartonnées dont j'avais le droit d'arracher le lambeau et d'allumer en les frottant très fort avec le gras du doigt. J'apportais la flamme au bord de ses lèvres. Quand les déportés rentrèrent des camps, rentrèrent-ils? D'où venaient-ils? Où allaient-ils? Dans quelle époque vivaient-ils? Vivaient-ils encore vraiment? On les regardait. Quand on les regardait, on souffrait de les voir. C'était du temps ineffaçable qu'on avait sous les yeux et qui avait certainement quelque chose de la mort, mais ils vivaient. Du moins vivait-il un peu encore, on ne pouvait manquer de leur reprocher d'avoir souffert ce qu'ils avaient souffert sans mourir. Eux-mêmes se le reprochaient au regard de tous ceux qu'ils avaient laissés dans l'autre monde. On leur reprochait d'être restés en vie pareils à des souvenirs inassimilables de ce qu'on aurait préféré omettre de l'histoire. Les Ikabusha, les pestiférés. Leur présence, cette incarnation qui se voit dans la peinture de Rustin où je retrouvais soudain mon oncle Jean tentant de renaître, faisant effort si difficilement, si longtemps pour renaître, quand il revint du camp de Dachau, silencieux, sous le lampadaire, sous les petites franges à l'angle du piano. Les Ikabusha, ce sont ceux qui ont survécu à la bombe atomique à Nagasaki. J'ai fêté ma soirée jubilaire invitée par mes éditeurs japonais à Nagasaki, précisément. J'ai voulu jouer pour eux. Vous voyez, c'est dédié, l'oublier est toujours dédié. D'ailleurs, j'ai joué sur un magnifique, jamais j'ai vu un piano aussi sublime, un Bechstein qui datait d'avant la bombe, qui avait un son qu'aucun Yamaha avec lequel ne peut rivaliser. Mon oncle si maigre, si efflanqué, si émacié, si élégant, qui parvint à m'enseigner à manger de nouveau, à parler de nouveau, rue mariée d'avis où ma grand-mère m'avait recueilli, comme il perturbait le présent. Comme cette perturbation du présent, ma grand-mère, mon oncle terrifié, affamé, me protégeait. Leur survie difficile, qui avait quelque chose d'impossible, rendait à la fois incapable de vivre et comme étourdi de vivre, affolé d'avoir à revivre. Ils n'étaient pas comme Ulysse, ils n'étaient pas comme des marins qui reviennent à leur port d'attache. Ils n'étaient pas comme des souvenirs qui se refondent à leur source, qui récupèrent une place perdue, revenant d'un irréalisable revenir. Ce n'était pas un ostos, c'était un déchirement. À l'intérieur de la déchirure de ce déchirement, c'était une nouvelle ère, première. Une toute neuve lumière décisive quant à l'illusion de l'espèce, les gens des utopies, quant à la ruine vertigineuse de l'humanisme, foi et progrès, quant à la transmission séculaire des valeurs du passé, langue morte, peuplade perdue, quant à la tradition de l'expérience humaine et à l'éducation des habitudes de séjourner dans le site, bombe nucléaire, nature en train d'être totalement détruite. En ce moment, au Japon, paraît de moi, je publie à l'étranger des livres qui ne paraissent pas ici, parce que comme j'écris un petit peu trop, je disperse un petit peu. En ce moment, au Japon, paraît de moi un livre qui s'appelle « Le Havre Nagasaki ». C'est au moment de la destruction de Fukushima que je me suis lancé dans le buto. Le buto, certains d'entre vous le connaissent, mais peut-être pas tous, c'est une des rares danses qui était inventée après la Seconde Guerre, lors de l'occupation américaine au Japon, qui se jouait dans les caves. Il était interdit d'évoquer les bombes. Les Américains refusaient qu'il soit question des bombes dans la population japonaise. Et qui se jouait dans les caves, et précisément par anti-américanisme, il s'agissait de ne pas pouvoir se soulever complètement. Comme les Japonais se sentaient méprisés pour avoir les jambes un peu arquées de ceux qui mangent, sur le sol, ils ont essayé de faire une danse nue, tout nu, dans la poussière du sol ou des caves, cherchant à s'élever, à se redresser, comme une espèce de naissance, de renaissance, mais pas de la renaissance italienne que nous avons connue en Europe, de renaissance impossible. Et ils ont appelé ça « Ankoku Buto », c'est-à-dire « danse des ténèbres ». Donc je me suis mis à faire une tournée entière avec la seule femme qui appartenait au groupe d'origine de Hijikata, qui était Madame Ikeda Carlotta. Ça a été, jusqu'à sa mort, ça a été tout à fait une expérience pour moi de... Si vous voulez, par moments c'était une danse, et ça a duré dans ce cas-là. Dans le noir, ça a duré dans ce cas-là 50 minutes. Et soudain, c'était une transe. Elle tombait, elle roulait par terre, elle se dénudait. Et dans ce cas-là, ça pouvait durer 1h20. Et elle jouait, j'étais dos au public, elle jouait avec moi, qui devait rester totalement immobile. C'était d'ailleurs, pardonnez-moi, moins fatigant que pour elle, mais fatigant quand même. À sa mort, la dernière danse que nous avons faite, c'est précisément dans ce port détruit du Havre que nous l'avons dansé. À sa mort, les amis, bien sûr, le régisseur, le musicien, celui qui s'occupait des lumières, m'ont demandé de parler sur YouTube pour rendre hommage à cette figure immense de Carlotta. Vous avez parlé tout à l'heure de mon amie Marguerite Duras, mais Carlotta Ikeda était une petite Marguerite Duras, aussi déterminée, aussi violente que pouvait l'être Marguerite. Et aussi énergique, parce que Marguerite Duras avait une énergie rare, très rare. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai parlé d'oiseaux. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait ces performances de ténèbres, mais avec des oiseaux. Je voulais ajouter à l'idée de performance que vous connaissez tous, qui est, comment dire, l'expérience unique, qu'on ne peut pas répéter, une donnée qui était très importante pour moi, qui est l'imprévisible. Vous savez ce qui est terrible, qui n'est pas intéressant d'ailleurs dans le travail de l'écrivain, c'est qu'il ne peut pas être spontané. Il retravaille ce qu'il écrit, il reprend, c'est un plaisir fou d'ailleurs, de reprendre et de recorriger, de recommencer sans cesse ce qu'on fait. Mais on ne peut pas, dans la psychanalyse par exemple, on peut dire un peu tout n'importe quoi dans l'instant où on le dit. Il y a une sorte de vérité là, imprévisible de l'événement. Dans une œuvre littéraire, on la retravaille tellement que quelque chose là est toujours, perd une dimension dont je voulais retrouver. Ajoute cette donne au théâtre, non seulement du vivant, du direct, mais de l'imprévisible. Alors j'ai cherché, et c'est pas difficile, il suffisait d'arriver, dans le noir, sur une scène avec des oiseaux. On ne sait absolument pas ce que va faire la chouette, on ne sait absolument pas ce que va faire le corbeau. Et c'est ça qui m'a lancé dans cette... Mais ce sont des perdus pour moi, vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des fêter Nithard en 842 avec une buse, et lui donner une petite souris vivante. Il y a là un court-circuit temporel qui est quelque chose qui me... Vous allez voir pourquoi j'évoque ce thème pour parler du perdu. À un moment, à peu près à mi-parcours du spectacle, en plus, je peux vous dire que, comme vous l'êtes vous-même, vous ne pouvez pas savoir, lorsqu'il y a des oiseaux sur scène, le silence et la bienveillance du public. Ils sont parfaitement... Avec aussi un peu de la crainte que ils ne viennent s'accrocher, ce qui arrive assez souvent, à vos genoux, sur votre épaule. Un moment, avec la corneille, on est tous les deux à quatre pattes, non, moi à quatre pattes, la corneille sur ses sortes de petites pattes, on cherchait des graines dans le noir, comme ça, avec lumière rasante. C'était... Et je disais, bien sûr, petit poussé, autant je trace ton chemin, autant tu le dévores. Et il venait me prendre une petite graine. Bon. On jouait, autant je trace ton chemin, autant tu le dévores. Alors la corneille voltait sur moi, se posait sur mon dos, sur mon crâne, marchait à côté de moi. Le perdu... C'est la maison perdue. J'aurais voulu quelque chose d'imprévisible, si vous voulez bien. Je vais continuer sans ça. J'ai encore un peu de temps. Oui. Non ? Vous avez dit à quelle heure ? Vous m'avez dit... Si, non. 17h30, 18h30. Non, il faut que je laisse parler les gens, peut-être.
Non, on a commencé à 17h40. Mais tout le monde est fasciné. Donc
non, écoutez, juste, je pose ma question parce que je ne suis pas capable de le faire. J'aurais voulu quelque chose d'un peu imprévisible. C'est si quelqu'un ici était très doué avec son téléphone portable, il aurait cherché dans son téléphone portable le mot de Freud. Et au mot de Freud, il aurait cherché voix de Freud. Essayez, qu'il y en ait quelques-uns qui le tentent. Et là, vous auriez entendu le seul enregistrement qui reste de Freud, qui est extraordinairement émouvant, qu'il a fait à Londres quand il a été reparti avec la... Ich bin Sigmund Freud. J'ai perdu ma maison, dit-il. Là, on est au cœur du perdu quand il arrive comme ça en Angleterre. Quelqu'un a-t-il trouvé ce... Oh, que c'est dommage. Bon, là, maintenant, je me laisse... C'est bien, on s'arrête maintenant, peut-être. Voilà, alors, oui, vous pouvez venir. On est sauvés. On a le seul enregistrement de Freud. Il dit une chose curieuse, d'ailleurs, il ne dit pas, comment dire... Alors que la princesse Bonaparte a eu beaucoup de difficultés à le faire revenir et que ses sœurs vont disparaître dans les camps, il dit les Allemands ont pris mon pays. Et enfin, l'histoire de l'Autriche n'est pas exactement celle-là. Voilà, cher ami.